France Inter.
La réalité m'embarrasse. Autant je lis beaucoup pour préparer mes romans, je prends beaucoup de notes, je suis beaucoup avec les mots quand même, avant de commencer à écrire, mais je vais peu voir les gens parce que j'ai peur après de les trahir, etc. Donc je préfère rester dans la vérité du rêve finalement.
Marie Nimier écrit une nouvelle fois pour tenter de comprendre d'où elle vient. Dans La Reine du silence, prix Médicis 2004, elle entreprenait un voyage vers la connaissance du père, l'écrivain Roger Nimier, mort accidentellement quand elle avait 5 ans. Dans Du côté de la reine, au Mercure de France, l'écrivaine décrit sa relation de petite fille avec une mère trop peu aimante et cette même relation, une fois adulte, avec une mère vieillissante qui se plaint beaucoup malgré la présence attentive et régulière de sa fille. Bonjour Marie Nimier.
Bonjour, c'est drôle, vous avez dit du côté de la reine, mais c'est bien, c'est bien.
Ah oui, mais c'est vrai.
C'est le côté obscur de la reine.
J'ai toujours pensé à Du côté de la reine.
Oui, parce que c'est un livre lumineux, voilà. Vous n'avez pas envie de mettre de l'obscurité là-dessus, même si le chemin est un peu obscur.
Le côté obscur de la reine, mon Dieu, je suis ivre, Marie Nimier.
Il a vu.
Écrire Marie Nimier en quelques mots, parce qu'on est dans le générique, on écrit pour comprendre, on écrit pour raccommoder, on écrit pour consoler.
On est écrit pour partager surtout.
Oui, c'était une bonne réponse en quelques mots. Je demande ça à une femme qui a commencé en plus par la chanson, par l'accordéon dans la rue, et qui a créé à l'époque un duo qui s'intitulait Les Inconsolables.
Ah oui, bien.
Bien, hein ?
Ouais, vous savez
là,
tout.
Là j'ai bon. Ouais. Depuis 85, la littérature a pris le dessus par rapport à la chanson de rue, si je puis dire. Il y a du théâtre signé Marie Nimier, des romans, des récits, des livres pour enfants, des chansons. Jouer avec les mots est une passion, et vous invitez deux linguistes qui, par définition, étudient ceux avec quoi vous écrivez, Marie, les mots et le langage. Je salue Anne Le Draoulec.
Bonjour.
Et Marie-Paule Perry-Woodley.
Bonjour.
Vous êtes deux chercheuses affiliées au laboratoire de linguistique et de psychologie de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Vous publiez un livre dont on va parler et vous tenez un blog de vulgarisation linguistique, Bling, avec des textes et des images. Nous partirons aussi dans cette émission pour Reims, pour comprendre ce qu'est le Pop Woman Festival du 6 au 8 mars. Un festival qui célèbre la créativité féminine à travers la pop culture, dans la musique, le cinéma, le théâtre, la BD et la littérature, bien sûr. 17h07, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Marie Nimier, autrice du Côté obscur de la reine, je le disais, écrit des livres, du théâtre, des chansons. Vous avez écrit pour énormément de chanteurs.
Oui.
Nana Mouskouri, par exemple.
Oui, alors ça a été la première, oui.
Enzo,
mais Johnny. Morane, beaucoup de femmes. Hein, mais
oui,
aussi,
beaucoup de femmes, pas seulement. Johnny Hallyday.
Art Mungo. Eddie Mitchell.
Oui.
Qui d'autre? Plein. Il y a beaucoup de jeunes aussi que vous ne connaissez pas, qui n'ont pas forcément enregistré, mais voilà.
Lucrèce, ça c'est là.
Oui, Lucrèce, vous la connaissez.
Mais oui, on l'entend chanter souvent. Elle a travaillé avec Morel, François Morel, à une époque. Il y a aussi Juliette Gréco. Ça, c'est une rencontre magnifique. Vous nous en aviez déjà parlé. Pour certains, vous avez accès à eux. Et pour d'autres, non. C'est plutôt l'entourage.
J'étais même dans une maison d'édition musicale, vous savez, Universal Publishing, donc j'avais signé chez eux au départ, donc c'est eux qui m'ont ouvert pas mal de portes, et ensuite je suis partie parce que la boîte était un peu grosse pour moi et pas tout à fait mon esprit, et j'ai surtout travaillé avec le compositeur Michel Armengo, dit Art Mungo quand il oui. chante lui-même, et écrit pour lui, et avec lui des chansons qui ont été chantées par d'autres.
Ça vient comment une chanson ?
Ça vient souvent des mots justement, pas forcément du sujet, une expression, quelque chose, une expression qui peut avoir un double sens, par exemple. Ça peut être très inspirant.
Ça va intéresser les linguistes qui sont parmi nous.
Oui, c'est vrai.
Vous, les linguistes, vous n'avez pas envie, parfois, d'être romancière ou d'écrire des chansons ou d'écrire du théâtre, plutôt que d'étudier celles et ceux qui le font ?
Mais on n'étudie pas vraiment celles et ceux qui font du théâtre et qui font des textes.
Marie-Paule Perry-Woodley.
On étudie la langue, et c'est vrai que chez Marie, on va trouver énormément de matière à intéresser des linguistes.
Hein.
Elle propose même une petite grammaire de l'amour.
Vous nous direz tout ça tout à l'heure, voilà. Mais il n'y a pas eu ce désir d'écrire autre chose,
de vous lancer ? Anne, par contre.
Moi, oui, mais ça a toujours été un rêve.
Anne Le Draoulec.
Moi, oui. Mais...
Un rêve, donc un vous rêve, écrivez voilà, en cachette.
Voilà, j'ai écrit voilà. un peu pour moi.
Et un jour, vous serez invité
voilà,
pour
je serai édité, exactement.
Votre premier roman. J'ai cité Gréco en 2012, Marie Limier. Elle vous demande de participer à son disque sur les ponts. Je me souviens, ce titre, c'est le titre du disque, c'est « Ça se traverse et c'est beau ». Vous écrivez plusieurs chansons pour oui. elle. Moi, j'aime bien particulièrement le Pont Marie. Dites-nous ce que c'est le Pont Marie par Gréco, signé Nimier.
Oh bah alors ça, c'est une drôle d'histoire. C'est comme une espèce d'inversion, c'est-à-dire que je lui mets dans la bouche des mots que j'ai envie qu'elle me dise. Enfin, c'est-à-dire que...
Elle s'adresse à vous.
Elle s'adresse à moi, à la petite Marie. Elle m'avait demandé un texte sur le Pont Marie. Et je me suis souvenue de cet épisode un peu triste de ma vie où j'ai sauté d'un pont. Voilà, j'avais une vingtaine d'années et j'avais pensé que ma vie était avait fait son temps, que j'avais fait mon temps. Et j'imagine, des années plus tard, une figure aimée, celle de Juliette Gréco, une voix fascinante et qui est jamais meilleure que dans l'adresse. Hein. Juliette Gréco, c'est ouais. « Déshabillez-moi », quoi. C'est quelqu'un qui vous impressionne.
On se souvient de ses
parle.
Gestes hein, sur scène.
Voilà. Je l'ai fait en même temps, alors oui. on n'est pas à la télé, zut. Et donc là, je l'imagine en train de me parler et de me dire « Petite Marie, les ponts, c'est pas fait pour sauter, elle m'engueule quoi, et c'est fait pour traverser.
Comment peux-je trouver moche sur un pont magnifique toute cette lumière autour, à l'intérieur, néant. Nous sommes des mêmes plaisirs, nous sommes du même sein. Mais vois-tu, aujourd'hui, je suis mélancolique. C'est à cause de toi, ma chérie de papier, en manteau de velours, bien lourd, ceinture dorée. Mais qu'est-ce qui t'a pris de jouer à la sirène? Il y a meilleur berceau que les eaux de la Seine. Il faut que je t'explique. Il faut que tu m'écoutes. Chante le pont, écris le pont, jette le pont, entoure le pont, balle-le et fais le pont, tout ce que tu veux. Mais promets-moi, promets-moi de ne pas oublier que le pont Bon Marie, petite Marie, c'est fait pour traverser, pas pour sauter, petite Marie, le pont Marie, très beau, très vieux, île Saint-Louis, pierre taillée, pas pour sauter. C'est bien compris. Ça nous bouleverse, ça nous renverse, mais on y vient. Le pont Marie, petite Marie, c'est pour aller de l'une à l'autre, de l'autre à l'un. Pour sombrer, je ne t'engueule pas. Et puis j'y tiens. Ah, je vais t'engueuler. Je déteste les ponts. Je déteste ton nom. Ce mari de clarté, quand sous les réverbères, Paris crève les yeux des passants de carton. À l'heure des poubelles et des caches-poussières. La Seine, c'est du béton. Quand on tombe dessus, ça fait très mal, je sais. Et rien n'est résolu. Par les pieds, par les pas, on va l'apprivoiser. Dix et cent mille fois,
jusqu'au dernier pavé.
Petite Marie, c'est vrai qu'elle s'adresse à vous et on est heureux que vous ayez échoué, Marie Nimier, puisque, par exemple, dans Le côté obscur de la reine, au Mercure de France, vous nous faites découvrir quelque chose qu'on ignorait, c'est votre relation à votre mère, autant que votre mère, en tout cas votre mère est perçue par vous, par votre relation, que ce soit celle que vous aviez enfant avec elle ou adulte, elle est morte il n'y a pas très longtemps.
Oui, il y a quelques années, oui. Ce livre n'aurait pas pu sortir de son vivant, même s'il a été en fait écrit de son vivant, ce qui lui donne son côté très tendu, je crois. C'est des choses qu'on ne peut pas écrire après la mort des gens, je pense, que j'ai écrit.
Il y a beaucoup de romancières, notamment, qui attendent effectivement la mort d'un parent pour écrire sur ce père ou sur cette mère. J'ai déjà remarqué ça.
Oui, alors moi, je n'ai pas attendu pour l'écrire, j'ai attendu pour publier.
Oui. Il était vraiment fini avant sa mort ?
Alors, il était fini peut-être 7-8 ans avant sa mort. Et après, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un changement d'éditeur. Il devait être pour la collection Blanche chez Gallimard. Ouais. Voilà. Et puis là, tout d'un coup, il a trouvé sa place au Mercure de France dans une collection magnifique.
Très et portraits.
Ouais. Voilà, qui accueille des livres... autobiographique en général ou de fiction autobiographique.
Oui, il y a eu Christophe Honoré, Christian Lacroix, etc.
Oui, beaucoup de très beaux titres. Il y a un très beau titre de Le Clésio aussi. Bientôt, un nouveau titre de Marine Diaye. Et la particularité, c'est qu'il y a de l'iconographie, c'est-à-dire il y a des images. Il y a tout un travail de chair, il y a tout un travail d'image qui est très important. Et donc, j'ai repris ce texte qui avait été écrit il y a un bout de temps et je l'ai réorganisé avec les images que j'ai trouvées finalement dans l'appartement maternel quand il a fallu le vider, je suis tombée sur une tonne de photos, de rédactions.
Vous êtes une très jolie petite fille, si je puis me permettre. Hein, avec votre poupée, la photo en noir et blanc et vos grands cheveux. Vous avez l'air d'une petite fille heureuse et sage.
Oui, alors
vous ne parlez pas,
regardez bien la photo. On parle de photo, mais oui. On ne la voit pas, on ne peut pas vous la montrer. Mais je vais vous la décrire quand même. On voit une petite fille très souriante, très belle, très jolie, comme ça. Mais il y a quand même la moitié de la photo qui est noire. Et ça, c'est comme ça que je l'ai trouvé, la photo. Donc, le côté obscur était là et je me disais, mais pourquoi il y a ce noir ? Moi, c'est ça que je vois sur cette photo. C'est le sourire et le noir.
Ce que je trouve intéressant aussi dans cette collection du Mercure, c'est que c'est un jeu de piste, au fond.
Oui, voilà.
On vous découvre progressivement avec le stylo-plume de papa, Roger Nimier, une montre. C'était déjà le cas avec la Reine du Silence ou pas ?
Il y avait déjà des objets, mais on ne les voyait pas. Et là, je peux mettre des photos, je peux mettre des choses sans avoir à les commenter. C'est-à-dire que ça vient de donner un autre éclairage, une lumière. Et puis, elles sont tellement bien imprimées. En plus, j'ai adoré voir le livre et le travail artistique est vraiment super bien fait.
Marie Nimier, dans Le côté obscur de la reine, vous essayez de résoudre quelle énigme ?
Pourquoi à 20 et quelques années, je me disais que j'étais foutue, que rien n'était intéressant, que je ne pourrais surtout pas survivre, que je n'étais pas faite pour survivre, qu'il y avait, je sais pas, il y avait en moi une obsolescence, quelque chose qui pouvait plus vivre, alors que je n'étais pas plus malheureuse que sur la photo avec la poupée. Je veux dire, je faisais du théâtre, j'avais des amis, j'avais un fiancé, etc. Et pourtant, je ne pouvais plus continuer. Et je pense qu'il y avait quelque chose de très sombre en moi que je cherche toujours. Enfin, voilà. J'écris ces livres et j'avance peu à peu sur cette piste de l'élucidation de cette obsolescence programmée, mais programmée par qui et pourquoi.
Il y a deux images, moi, qui me restent de votre livre. Entre autres, deux images fortes. C'est vous, les dernières années avec votre mère. Vous êtes là, vous l'écoutez. Quand elle se plaint, parce qu'elle se plaint beaucoup, vous essayez de lui donner des pistes pour aller mieux, etc. Ça l'agace foncièrement et il y a une incommunicabilité entre vous qui est impressionnante.
Oui, c'est effrayant. Mais c'est vrai que j'ai pas mal développé ça, le bureau des plaintes, parce que je pense que ça peut parler. Évidemment, ma propre histoire n'est pas très intéressante, mais il y a certains aspects de cette histoire qui peuvent vraiment parler à beaucoup de gens et je me rends compte maintenant que le livre est sorti, c'est le bureau des plaintes. C'est-à-dire que la plainte, il ne faut surtout pas essayer de la résoudre, c'est ce que j'ai compris très récemment, en relisant ce livre que j'avais écrit. C'est-à-dire, la fille, le fils, l'ami, essaye de résoudre, essaye de réparer, essaye de trouver la solution. Mais non,
Vous êtes fautive.
Ah oui, et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est toujours renvoyé dans les cordes. Enfin, moi, j'étais toujours renvoyée dans les cordes par ma mère. Et moi, plus elle se plaignait, plus je m'acharnais à vouloir réparer. Ouais. Mais non, ce qu'il lui fallait, c'était la plainte. Elle s'accrochait à la plainte comme quelque chose d'essentiel pour sa vie.
Et dans cette énigme que vous cherchez à résoudre, Marie Nimier, il y a cet enfant qui était admirative de sa mère. Et ça va même au-delà. Vous dites que vous êtes submergé par l'amour que vous portez à votre mère, il y a presque du désir charnel pour elle quand vous êtes toute petite.
Oui, et ça je l'ai retrouvé, c'était assez troublant, émouvant d'ailleurs, parce que je l'ai trouvé dans les rédactions, les lettres, les textes qu'elle avait gardés de ma toute petite enfance, où on voit que toute petite, j'avais une passion pour elle, et j'ai retrouvé aussi des lettres de mes deux frères, j'ai deux frères qui avaient cette même passion. Oui. C'était une femme très séduisante, qui séduisait ses enfants, je pense aussi.
Et les voisins.
Et tout le monde.
elle avait deux faces, au fond, avec vous, pas sympathique, pas aimante.
Mais si, elle disait qu'elle aimait.
Oui, mais c'était pas le cas, puisque vous étiez en demande.
Alors oui, une fois même elle m'a dit, mais je ne comprends pas, t'étais accrochée à mes jupes. Et alors, quand elle m'a dit ça, mais je me dis, mais c'est juste pas possible. Enfin, je sais pas, la petite fille qui est là avec sa maman, enfin, c'est quand même une image assez... Et puis, alors, c'est comme si c'était elle qui était agressée par l'amour que je lui portais.
En tout cas, elle séduisait beaucoup, elle a eu pas mal d'amants, vous l'écrivez.
J'en ai pas trop parlé, non. Ça pourrait faire un autre livre.
Il y a quand même une ligne ou deux où vous le dites.
Une ligne ou deux, oui.
Je ne l'ai pas inventé, Marie Nimier.
Non, probablement pas, mais ça n'a pas été... Non.
Mais c'était aussi ce qu'on appelait peut-être à l'époque une femme moderne, c'est-à-dire qu'elle élevait ses enfants, et puis elle travaillait aussi, elle a eu des boulots passionnants.
Oui,
elle a travaillé
dans
la publicité.
Oui, c'était peut-être pas le plus passionnant, sauf que ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'elle travaillait avec les mots, c'était une femme de mots, elle a beaucoup d'humour, beaucoup de... Vous savez, on me dit toujours, comme mon père était écrivain, on me dit, ah, les gènes de l'écriture, oui. Roger Nimier, blablabla. Bla bla. Ah bah non.
non, c'est maman.
L'écriture, la parole, c'est maman. Oui,
en plus, vous aimez la radio et votre mère a fait de la radio.
Oui.
On en a une preuve. Est-ce que vous acceptez d'écouter maman?
Ah bah, je suis curieuse.
Hein, on va dire son nom d'ailleurs, Nadine Nimier.
Ouais.
Hein, et puisqu'on évoquait ce climat avec la mère, etc. Lacan. Parlons de Lacan, elle a interviewé Lacan,
oui,
ce qui était
incroyable.
Extrêmement rare, ce grand psychiatre et psychanalyste. Si, elle a réussi à lui poser une question, c'est en 1973, écoutez.
Tout de suite, Aline Nimier, à propos de ce congrès international de psychanalyse, vous étiez à l'ouverture de ce congrès.
Oui, je n'ai pas quitté le congrès jusqu'à à peu près maintenant, et j'étais très frappée du nombre des congressistes. C'est quand même 1600 personnes, 1600 psychanalystes, spécialistes rassemblés, venus de 32 pays différents. Ça n'est pas rien.
Aline Nimier, vous avez obtenu un document que la presse a annoncé, d'ailleurs, c'est une déclaration de Jacques Lacan. Et il est connu que Jacques Lacan n'accepte jamais de se manifester devant un micro. Alors pour une fois, il est avec nous.
Le docteur Lacan, en ce moment, se tient à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité. Vous n'en êtes pas.
Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement qui, avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent, car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt.
Voilà un petit extrait.
Génial.
Vous savez combien de temps dure la réponse de Jacques Lacan à Nadine Nimier ?
Non.
Petite question très bonne qu'on a entendue. 10 minutes de réponse.
Ah oui, mais oui, parce qu'après, il part de la répétition, etc.
Bien sûr.
Mais je trouve ça génial, cette idée de l'absent qui est au centre. Ouais. L'absent, quand il y a un dîner de famille, etc. L'absent, celui qui n'est pas venu, il est toujours au centre des conversations.
Et les morts le sont souvent aussi.
Et donc, on peut dire que dans ma famille, les absents, donc le père, était aussi, non pas au centre des conversations, mais au centre du silence.
Eh oui. La reine du silence, Primédicis. Votre mère était curieuse parce qu'elle s'intéressait, on a retrouvé pas mal d'archives, hein.
Oui.
Elle s'intéressait à la science, à la médecine,
ah,
elle faisait des émissions par exemple très pointues sur l'anesthésie, des thèmes encore une fois pointue et pas généraliste.
Oui, oui, non, c'était une émission très intéressante. C'est les après-midi de France Culture. Il y avait Laure Adler, il y avait Paul Ajac. C'était génial. J'ai adoré, moi, en tant que. J'étais adolescente à ce moment-là et j'ai adoré cette ambiance radio.
Je me tourne vers nos deux linguistes. Je vais rappeler leurs noms, Anne Ledraoulec et Marie-Paul Perry-Woodley, qui sont aussi lectrices de romans, j'imagine. J'ai pensé à vous notamment avec cette phrase de Marie Nimier évoquant son père dans Le côté obscur de la reine. Pas fait pour le mariage, ni la paternité, mais pour le droit de cuissage, les canulars, le baratin, la chair fraîche, les figures de style. Alors ça vous parle, mesdames les linguistes. Qui veut répondre?
On est plus linguiste que stylisticienne, oui. En fait. Donc, mais ça nous parle en tant que lectrice plus que dans le travail. En
alors, comment vous avez lu ce livre? Parce que quand on est professionnel comme vous, des savantes de la langue, bah oui, vous êtes scientifique. Est-ce que la manière de raconter sa relation à sa mère vous intéresse d'une manière particulière? Dites-nous votre lecture. Marie-Paul Perry-Woodley.
Alors... À deux niveaux, en fait. J'ai remarqué beaucoup de petits points. Et je dois dire que j'ai lu Le côté obscur de la reine. Je n'avais pas lu La reine du silence. J'ai donc lu La reine du silence dans la foulée et je mélange un peu les deux. Donc je vais...
Mais c'est bien, ils se complètent, le père et la mère.
Mais à 20 ans d'intervalle, peut-être, pour Marie Nimier, c'est très long. Mais donc, il y a des petites choses, des petites trouvailles langagères qui m'ont vraiment beaucoup plu. Enfin, je l'ai dit comme ça de manière légère, c'est pas forcément léger. Comme papa, ce mot papa qui est une double négation. Ouais. C'est très fort en fait. Et c'est à la fois ludique si on veut et très fort. Et ce papa qui était décédé.
Oui, en trois syllabes, ça, avec des petits tirets, parce que ça, c'était profession du père, décédé. Alors, je me rattrapais, parce que la mère, elle était, à cette époque-là, quand j'étais petite, conceptrice, rédactrice en chef de publicité.
Ça vous aimiez.
Waouh, ça, c'était top.
Vous aimiez beaucoup l'écrire en début d'année, ça.
J'adorais.
Sur la petite fiche qu'on remettait au prof ou à l'institut.
Et alors, par rapport au papa, pour moi, c'est vraiment important, ça, ce papa, un père que j'ai jamais appelé papa, d'ailleurs, mais enfin, bon, quand j'ai réfléchi à ce son, par rapport à moi, je raconte aussi dans La Reine du Silence que quand je signais à l'époque, j'ai changé depuis, je signais nier, N-I, et puis je faisais un grand trait, et puis I-E-R, nier, comme dans famille, si on écrit le M comme ça, ça fait faille. C'est le livre de Blandine Rinkel qui vient de sortir.
Bien
là. Donc j'étais Marie Nier, papa.
Et vous, Anne?
Et moi, ma première lecture, c'est pas une lecture de linguiste du tout, c'est une lecture normale,
j'imagine.
C'est une lecture. Et en fait, je l'ai relue, comme je t'ai dit Marie, je t'ai relue. Et là, j'ai peut-être plus lu avec un œil de linguiste et je me suis rendu compte à quel point, bon, on le voit à la première lecture, mais les mots, tu tisses les mots tout au long du livre. Il y a vraiment des fils que tu tires, que tu reprends. J'ai repensé à l'araignée, même qui est au centre du livre. J'ai l'impression d'une toile tissée très serrée, avec beaucoup de jeux sur les mots, mais qui ne sont pas des jeux de mots. C'est beaucoup plus profond que ça. Enfin, je t'en ai parlé, Marie, de cette citation qui dit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. »
Qu'on attribue à Hugo.
Qu'on attribue à Hugo, mais j'ai vu que ce n'était pas de Hugo, en fait, enfin, que c'est attribué à Hugo. Et je trouvais que ton livre est très... Enfin, les mots sont guident entièrement le livre de Marie. Et là, je me dis que pour les linguistes, c'est vraiment... Il y a plein de choses
alors
intéressantes.
Alors là, quand on est auditeur, à ce moment-là, 17h27 sur Inter, on écoute un petit extrait du livre.
Ouais.
Vous voulez bien, Marie Nimier? Je sais que vous aimez bien lire.
Depuis toujours, ma mère se débrouille pour devenir l'amie de mes amis. Elle leur envoie des petits cadeaux accompagnés de post-it en forme de cœur. Que quelqu'un de mon entourage soit malade, et c'est l'effervescence. Partout où il y a de la douleur, c'est pour elle. Et même... C'est elle. Elle, intrusive, elle ne voit pas ce que je veux dire. Tout autour de moi, ma mère rayonne, sans jamais se départir de sa prétendue discrétion. Je suis au centre de son dispositif de séduction. Il ne s'agit pas de m'attraper comme une araignée attrape une mouche, non. Elle ne cherche pas à me capturer puisque je suis déjà captive. Le mal est fait, les épingles depuis longtemps plantées dans mon corps. Elle veut juste m'administrer régulièrement une petite piqûre de rappel. Ma mère me montre tous les signes de l'amour sans l'amour. Ou alors avec l'amour, mais à côté, comme on arrose une plante à côté de son pot.
Le côté obscur de la reine, Marie Nimier, que l'on retrouve, puisque c'est son grand atelier avec ses invités, linguistes en l'occurrence dans un instant, Anne Le Draoulec et Marie-Paul Perry-Woodley.
Galope vers sa liesse, galope vers sa liesse, vers sa liesse. Galope, galope, galope sous l'orage, galope sous l'orage, dans la nuit et la fange, sur le chemin des anges. Galope, galope. Sans fanion, sans armoirie, baisser, baisser les ponts-levis. Combien de kilomètres encore, combien de kilomètres encore, combien de kilomètres avant le jour, avant l'aurore, combien de galops à venir, combien de galops à tenir. Combien de dragons à oxyre, combien, combien de forteresses avant l'amour, avant l'ivresse. Chevaleresse, chevaleresse. Galope sans armure, galope sans armure, galope le cœur sûr vers l'azur. Combien de fiefs à défendre, combien de siècles à attendre, combien de murs à abattre, combien de flèches pour combattre dans ton carquois de joie. Continue ta course pour que se lèvent les matins. Continue ta course qu'aujourd'hui et demain je me hisse vers ton allure, vers tardiesse. Je me hisse vers ton allure, vers ta tendresse. Chevaleresse, chevaleresse.
Chevaleresse, c'est l'une des nouvelles chansons de Babix.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Alors vous avez un livre qui sort entre elle et lui, Anne Le Draoulec et Marie-Paul Perry-Woodley, mais vous avez aussi un blog qu'on peut aller consulter, un blog de linguistique illustrée, un petit peu comme le livre de Marie Nimier. Alors, c'est assez drôle parce que vous expliquez que c'est très 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 difficile de dire ce que vous faites dans la vie, j'imagine, Katamo. Et toi tu fais quoi et vous vous faites quoi? Et alors là ça doit être très long, ça rappelle un peu le personnage d'Agnès Jaoui, je crois qu'elle s'appelait Camille, dans On connaît la chanson d'Alain René, personne ne sait dire son sujet de thèse.
Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28, je te l'ai dit, non?
Ah bon? Mais une thèse sur quoi?
Sur rien...
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça.
Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans.
Ah non, Odile, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. Bon bah alors vas-y, c'est quoi?
Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru.
Bah qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça.
Non.
Au lac de
Paladru.
Anne Le Draoulec et Marie-Paul Perry-Woodley, comment vous expliquez votre métier? Tiens, pour les auditeurs là, qu'est-ce que vous dites de ce que vous faites?
Bon, je laisse Anne parler parce que je suis à la retraite.
Ce que vous avez fait alors, Anne.
On travaille sur la langue, donc à part mes... Je suis très contente que vous ayez mis cet extrait, qui nous a beaucoup plu justement quand on a beaucoup de mal à expliquer ce que c'est que la linguistique, c'est
vous
pas la grammaire.
Vous sentez Annie Ajaoui.
Voilà, on se ressent vraiment... Moi, quand je travaillais, j'ai fait une thèse sur Avant que, ben, c'était très compliqué aussi d'expliquer le sujet, comment travailler 3 ans sur Avant que.
Oui.
Donc c'est toujours compliqué d'expliquer la linguistique en général, il faudrait beaucoup plus de temps.
Mais ce que vous écrivez toutes les deux dans ce blog, c'est que vous cherchez le plaisir.
Voilà.
Alors, c'est important cette notion.
Ouais.
Le plaisir de la langue qu'on voudrait partager.
Oui, et le plaisir de la langue, c'est quand même le plaisir de comprendre. Et c'est ce plaisir de comprendre qu'on aimerait partager. Et c'est vrai que moi, j'étais enseignante et j'ai toujours eu le souci de ne pas répondre à des questions que les étudiants ne s'étaient pas posées. Donc l'idée de partir de quelque chose d'un peu énigmatique ou qui puisse causer des questions. Et c'est vraiment ce qui nous motive pour le blog Bling. C'est vraiment de partir de ce qu'on appelle des petits faits langagiers, après la linguiste
Alors c'est quoi
Marina
les petits faits langagiers? Donnez un exemple, s'il vous plaît.
Oui, alors j'essayais justement d'y réfléchir. Si vous dites... bon, c'est un mot d'enfant, en fait, un mot de la fille d'Anne. Il n'y a jamais personne sur les rochers. Mais bizarrement, ça peut vouloir dire qu'il y a toujours quelqu'un ou
qu'il n'y a jamais personne.
Qu'il n'y a jamais personne.
Ah oui, les deux.
Donc, cette phrase peut signifier absolument une chose et son contraire absolu. Et donc, petite énigme.
Oui, bien sûr. Vous évoquez, entre autres, la nécessaire féminisation des mots. Alors ça commence à être un vieux débat, mais il y a toujours des personnes qui n'ont pas envie de dire autrice. Même des femmes, j'ai beaucoup de femmes au micro qui disent non, vous dites écrivain. Non, écrivaine à la limite, mais surtout pas autrice, quel vilain mot, ou metteuse en scène, etc. Et je voulais vous proposer cet échange radio sur France Culture qui vous a d'ailleurs inspiré, mesdames, un post sur votre blog Bling. Deux linguistes n'étaient pas d'accord sur l'écriture inclusive. C'était en 2019, Daniel Manès et Eliane Viennot.
Je vais vous donner un exemple, Eliane. Je vous dis par exemple, Madame Sand est le plus grand écrivain de sa génération. Est-ce que c'est pas plus élogieux que de dire Madame Georges Sand, c'est pas le Georges hein, qui est en question, Madame Georges Sand est la plus grande écrivaine de sa génération.
Je ne trouve pas ça plus élogieux.
Eh bien, moi si. Parce que l'écrivain couvre les hommes et les femmes.
Voilà, parce que
alors, vous avez le masculin, l'emporte sur le féminin. Nous ne parlons pas la même langue.
Voilà, nous ne parlons pas la même langue. Une réaction, Marie Limier, bon, romancière.
En fait, oui, bah, moi, ça fait très très longtemps que j'ai soulevé le lièvre. Dans un livre, il y a très longtemps, je racontais que quand je disais écrivaine, on dit « Ah, j'aime pas écrivaine parce qu'on entend veine. » Comme si dans écrivain, on n'entendait pas le mot vin. Donc, en fait, j'écris un petit texte dans ce livre entre elle et lui.
Il y a plusieurs écrivaines qui ont écrit.
Voilà, sur cette histoire, en fait, il faut que ces mots rentrent dans l'oreille. Et puis quand c'est les mots, enfin ça doit passer par l'oreille. Et puis ça, après ça, ben, on pourrait pas dire quand même, je sais pas, Catherine Deneuve est un bon acteur et on trouverait pas ça plus élogieux de dire que c'est un bon acteur plutôt qu'une bonne actrice.
C'est rentré dans le langage depuis longtemps.
Voilà,
actrice.
Alors faisons rentrer. Allez, venez les mots, venez nous aider.
C'est joli le titre de votre chapitre d'ailleurs. Vous dites comment le féminin doit passer par l'oreille pour gagner le cœur.
Mais oui, c'est ça. Voilà, il faut s'endormir, se réveiller, puis. Mais je trouve que ça met longtemps, quoi. Je trouve que... Alors, quand on entend « Ah, autrice, ça crisse !» Mais quoi, ça crisse ? Mais, je veux dire, alors, spectatrice, lectrice, ça crisse aussi. Et ça, enfin, voilà. Ça commence à m'énerver un peu, cette histoire, mais...
Oui, je sens que vous croisez nerveusement les bras.
Ah, mais oui, voilà. Mais bon, on ne va pas y mettre trop de poids non plus. Et les textes de ce livre et les textes du blog Bling,
oui.
Sont très, en général très drôles, et c'est ça qui me réjouit, et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi d'inviter ces deux fées de la langue, parce qu'elles nous ouvrent des horizons, j'aime bien ma cousine, elle a une expression comme ça, elle élargit notre losange, elle nous élargit notre losange, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Par exemple, il y a, dans ce livre, il y a quelque chose sur la nuit et le jour, et il y a beaucoup de choses aussi sur l'homme générique, l'homme avec un grand H, l'humain, et puis l'être humain, homme. Et Et elles m'ont fait prendre conscience que le jour, c'était le jour, avec de la lumière, du sol, etc. Mais c'était aussi la nuit. Le jour, c'est aussi la nuit. Quand on dit un jour et une nuit. Mmh. Donc c'est le jour et la nuit. C'est exactement pareil que comme l'homme et la femme. Exemple. Et ça, j'avais jamais compris ça. Et là, j'ai eu mon losange, waouh, il a explosé.
Il y a un autre exemple, peut-être, Marine Imier.
Non, mais peut-être on va demander à nos
Anne.
Je voulais juste revenir sur le débat entre, oui, Daniel Manès et Liane Viénot. Parce qu'en fait, c'est pas que Daniel Manès ne veut pas dire écrivaine ou autrice. C'est juste, c'est un truc plus compliqué. Mais quand on dit qui est le plus grand écrivain, c'est pas qu'elle ne veuille pas dire écrivaine, mais c'est le plus grand écrivain, c'est parmi les écrivains et les écrivaines.
Mais c'est là-dessus que porte votre livre à,
oui,
toutes
sur
les
le,
deux.
Sur le générique, en
Je
fait.
Je rappelle le titre, sur Entre elle et lui. Voilà. Ouais. Dans beaucoup d'expressions, les femmes brillent par leur absence.
Par leur absence, c'est ça. Parce que quand on a le masculin générique, le plus grand écrivain, ça fait partie du masculin générique. Les écrivaines, ils sont, même si on veut bien dire écrivaines, elles sont pas comprises. Elles sont censées être comprises dans le plus grand écrivain.
Si je dis nous sommes tous frères.
Voilà, aussi, frères.
Vous êtes où, mesdames?
Voilà.
Si je dis les Français sont râleurs, vous êtes où? Si je dis l'homme est un loup pour l'homme, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est là le générique. En fait, quand c'est un collectif, on ne sait pas si les femmes y sont ou pas.
En fait, vous étudiez la manière dont les femmes sont en creux dans le langage.
Tout à fait, oui.
Et on est intéressé par les problèmes qui n'ont pas de solution facile. Et les choses se sont vraiment compliquées quand Annie Ernaux a eu le prix Nobel de littérature, puisqu'elle était, si je me souviens bien, le 16e écrivain,
oui,
mais c'est une écrivaine française à l'obtenir, et elle était la première
écrivaine.
Et les journalistes ont eu bien du mal entre Annie Ernaux et le 16e écrivain, mais non, ça ne va pas. Mais
donc un « elle » ne vaut pas un « il », Marine Imier.
Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose aussi intéressant dans l'ordre, parce que normalement, c'est « ladies first », enfin les femmes en premier, on laisse passer toujours la galanterie, etc., surtout en France, on est très attaché à ça. Mais pourtant, dans toutes les expressions, vous mettez en lumière plein de d'endroits où le masculin arrive avant le féminin. Et donc, ce ne sont pas des sœurs et frères, mais des frères et sœurs. Ce ne sont pas des femmes et maris, mais des mariés et femmes. Et puis, il y a un truc que j'adore aussi, que j'ai découvert dans le livre, mais qui avait été soulevé par Camille Laurence, puisqu'il y a la présence de beaucoup d'écrivaines dans ce livre, et de citations, et en plus des textes qui ont été spécialement écrits. C'est l'histoire de filles. Vous voulez le raconter?
Allez-y, Anne.
Mais fille qui peut, c'est la fille, enfin, comme dit Camille Laurence, c'est la filiation, c'est toujours fille, soit une fille comme opposée à garçon, ou fille opposée à fils. Donc, il y a toujours la filiation. Et de la même façon pour femme, enfin la femme ou l'épouse, et alors qu'il y a le mari, il y a homme, pardon, qui s'oppose à femme, et il y a...
C'est-à-dire, alors moi je vais expliquer, parce que là elle se met...
Je m'en mélange.
Alors, moi ce que j'ai compris, c'est que pour les femmes, il y a un mot, et pour les hommes, il y a deux. Alors par exemple, il y a le fils femme et la fille, et le fils, ça peut être le garçon. Ah, mais c'est toujours la fille. Et il peut y avoir le mari et l'homme, et pour la femme, c'est toujours la femme.
Alors écrire ce livre, c'est une forme de militantisme finalement?
D'engagement, en tout cas.
D'engagement.
C'est d'engagement, voilà, de militantisme. Après,
entre
il y a idéologie, voilà. Certainement, il y a une forme d'engagement, un désir de sortir.
Mais l'engagement, c'est aussi de sortir des débats un peu récurrents.
Qui ne font rien avancer.
Qui ne font rien avancer. Donc, on a essayé de tenir une ligne de crête, la façon dont se disait, sans prendre parti. En particulier, la question de l'écriture inclusive est très clivante.
Oui, toujours très clivante.
Et donc, nous, on a voulu plutôt donner à voir, expliquer les problèmes du sexisme dans le français, qui sont très réels.
Qui sont réels,
sans
vraiment
prôner une solution.
Vous n'avez pas écrit à l'Académie française? Vous avez envoyé votre livre dédicacé?
C'est une bonne idée.
Mais oui, il faut commencer par faire des choses comme ça, après l'écriture. On écoute de la musique, vous voulez bien?
Oui.
France Girl sur France Inter, dans le grand atelier de Marine Imier, c'est Switch Over.
Switch over.
est bien sur France Inter, c'était Horse Girl, Switch Over.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Dans le Grand Atelier de Marie Nimier, nous accueillons le Reims Pop Women Festival. Bonjour Céline Bagot.
Bonjour.
C'est vous la fondatrice du Reims Pop Women Festival, festival pluridisciplinaire qui célèbre la pop culture. Quand vous créez ce festival il y a 4 ans,
oui.
Vous avez quel désir en vous ou alors quel constat faites-vous ?
Alors, le désir de mettre en avant la créativité féminine, car le constat, il était criant, c'est-à-dire un manque de représentation de femmes artistes dans toutes les disciplines artistiques et donc dans tous les festivals.
Je crois que vous avez un chiffre assez édifiant.
Exactement. En fait, moi, je programme 80% d'artistes femmes et 20% d'artistes hommes en étant déjà très généreuse, puisque en fin de compte, ce qu'on repère par exemple dans les festivals de musique, c'est qu'il y a 14% d'artistes femmes qui sont représentées. Et moi, la question que je me posais, c'est pourquoi 60% des étudiants qui sortent d'école d'art sont des étudiantes, mais où est-ce qu'on les retrouve après ?
Et alors ?
Et alors, justement, il y a une vraie question de société. Où est-ce qu'on les retrouve après ? Des femmes talentueuses, il y en a énormément. Moi, je programme des femmes principalement parce qu'elles ont du talent, pas juste parce que ce sont des femmes. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, regardons ensemble ce qu'il se passe, travaillons ensemble, parlons d'égalité homme-femme, de manière un peu différente aussi, grâce à la pop culture et aux produits culturels créés par des femmes.
Oui, c'est-à-dire que dans ce festival, on peut venir voir des artistes chanter, jouer, dire des textes avec des dessinatrices. Je pense à Pénélope Bagieu, qui tout accompagnera une lecture d'Ovidie.
Exactement, ouais. La chair est triste, hélas, dessinée par Pénélope Bagieu.
Son dernier livre, donc 80% de femmes et 20% d'hommes. Parmi les 20% d'hommes, il y aura qui ?
Alors, on aura deux auteurs de bande dessinée qui s'appellent L'Arnaque des Nouveaux Pères, qui est sorti il y a quelques temps chez Glénat. On aura un influenceur qui s'appelle Ilgerson, qui parle aussi de paternité. Et donc, en fait, l'idée dans les 20% d'hommes, c'est qu'ils puissent aussi célébrer les femmes. Et donc, on aura aussi pas mal de musiciens qui accompagneront les performances sur scène d'autres artistes femmes.
Oui, je disais tout à l'heure que c'était pluridisciplinaire, donc plusieurs arts qui sont convoqués, puis aussi des tables rondes, des concerts, donc des expositions et des débats. Ça fourmille pendant 3 jours à Reims, quoi.
Exactement. Donc, on va avoir des thématiques, par exemple, sur la science-fiction, puisqu'en fait, les femmes ne parlent pas juste de problèmes de femmes. La science-fiction est un sujet humainement pour tout le monde, en fin de compte. Donc, on va parler de science-fiction. On va parler aussi de roman photo. Le roman photo, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Ah bon, pourquoi ?
En fait, c'est vraiment un sujet. Moi, je lisais du roman photo dans Hockey Podium quand j'étais jeune. Et en fait, ça permet de parler d'égalité homme-femme d'une manière un peu différente et surtout en rigolant. Donc, en fait, la table ronde, s'appelle Roman Photo, Kitsch et Brushing pour l'égalité. Et donc, on va parler d'égalité, de masculinisme, etc., mais tout en rigolant et en incitant le public à faire lui-même une partie d'un roman photo.
Donc, le féminisme peut sourire.
Exactement. Évidemment que le féminisme peut sourire, mais surtout, le féminisme appartient à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut le redire. Il faut célébrer ça. On va aussi parler, évidemment, de sujets très importants. On a une table ronde qui s'appelle Lolita ou le concept de l'allumeuse, avec une romancière, avec une essayiste et une autrice de bande dessinée. Et en fait, on va parler de ces sujets-là aussi pour se poser la question, pour débattre, et surtout pour avoir des gens différents qui n'ont pas forcément toujours le même point de vue, mais qui peuvent débattre devant un public qui se pose des questions eux aussi sur le féminisme.
Vous aurez une grande reporter du Monde qui se dit d'ailleurs féministe parce qu'elle touche avec sa plume ces sujets-là,
oui.
C'est Annick Cogent.
Annick Cogent, je suis absolument ravie de la recevoir parce qu'elle a beaucoup, beaucoup travaillé et suivi des sujets très importants dans les camps, par exemple, de Bachar el-Assad et les viols des femmes. Mais elle a aussi, là, vient de sortir une bande dessinée qui s'appelle Les Mémoires de la Shoah, qui sont une adaptation, en fait, de ses textes écrits en 1995. On va aussi parler, grâce à elle, du mouvement Femmes, Vie, Liberté. On va aussi avoir des autrices de bande dessinée comme Aude Picot, Florence Sestac. Et on va aussi avoir beaucoup de romancières comme Louise Chenevière, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pour Britney, qui nous fera aussi un concert Britney Live. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a des gens très différents.
De toute génération, d'ailleurs.
Qui peuvent venir, qui peuvent nous parler de sujets très différents. On aura aussi une table ronde sur l'héritage, racisme et acceptation de soi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir beaucoup de thématiques sur 3 jours à Reims.
Le Pop Women Festival, c'est de mercredi à vendredi. Vous y auriez votre place, mesdames.
Ah oui, mais moi j'ai très envie d'y aller. Ouais. Ça a l'air passionnant.
Vous parleriez de quoi, vous ?
Ben non, j'irai écouter.
Mais vous aimez bien aller écouter des choses,
lancer
des aventures.
Ah oui, j'aime beaucoup ça. Ouais.
Il paraît qu'on vous voit parfois dans un nouveau théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre Concorde et vous faites chanter les gens.
Mais non, c'est pas moi qui fais chanter, j'ai chanté, c'est moi.
Ah, c'est vous qui chantez, vous chantez dans la chorale.
Mais oui, en fait, c'est un endroit, c'est le Théâtre de la Concorde, c'est au métro Concorde, c'est dans les jardins des Champs-Élysées, et c'est un endroit effervescent, c'est un peu comme le festival, là, dont on vient de parler. Et le mois prochain, ben non, ce mois-ci, puisqu'on est en mars, justement, la thématique, puisqu'il y a une thématique par mois, c'est les histoires de genre, femmes, hommes, etc. Et avec, toujours abordé avec beaucoup d'humour aussi, beaucoup de sérieux et beaucoup d'humour à la fois. Et c'est un endroit où on peut faire des ateliers de danse, on peut aller chanter, on peut aller au ciné-club, tout ça. Et tous les ateliers sont gratuits, les spectacles ne sont pas chers du tout. Là, par exemple, en mars, il y aura un comédien qui s'appelle Yves Eck. Je ne sais pas si vous le connaissez,
oui,
c'est un super comédien. Et il va faire un spectacle qui s'appelle Au-delà de la pénétration, qui est inspiré d'un livre de Martin Page, dans lequel il y a aussi des témoignages. Vous savez, j'aime bien les confidences, moi. Alors,
oui.
C'est des gens qui ont fait des confidences sur leur sexualité, sur la place de la pénétration dans la sexualité. Et je n'ai pas vu encore, hein, puisque ça n'a pas encore commencé, mais bien sûr, je vais aller le voir. Mmh. Et voilà,
tout ça, c'est au Théâtre de la Concorde, nouveau théâtre qui était autrefois l'Espace Cardin,
oui,
qui est devenu municipal. Et il est dirigé par une ancienne productrice de France Inter et de France Musique qu'on salue, si elle nous écoute, Elsa Boublil.
Ouais, et vraiment, c'est joyeux et c'est intéressant, c'est passionnant, c'est très engageant. C'est assez politique, moi ça me plaît beaucoup.
Oui, c'est un théâtre qui regarde la cité, comme on dit.
Ouais.
Mesdames, est-ce que vous avez envie de nous conseiller quelque chose Marie-Paul, Perry Woodley, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on lit? Allez-y.
Alors moi j'ai décidé de faire un pas de côté par rapport à notre sujet, à notre thématique d'aujourd'hui, en conseillant un livre qui vient de paraître par David Le Breton, qui est un sociologue qui a beaucoup écrit sur la marche, et qui écrit un livre sur Bernard Plossu, qui est un photographe marcheur également.
Qui est un photographe marcheur, qui a fait des photos en couleur, en noir et blanc, depuis des années.
De magnifiques photos d'oiseaux, qui aussi m'ont particulièrement touchée. Ce livre s'intitule « Marcher la photographie ». Un peu bizarre linguistiquement, d'ailleurs, « Marcher la photographie ». Et donc avec ce sociologue marcheur et ce photographe marcheur, il est surtout question d'attention très fine au monde. Et j'ai relevé une citation de Bernard Plossu qui dit « Je photographie tout parce que je vois tout le temps. » Vois est entre guillemets. Et finalement, ça m'a fait penser, j'ai ramené un peu la couverture à moi, à nos instantanés linguistiques dans notre blog. Il s'agit un peu d'instantanés linguistiques. Et on fait des instantanés, et on s'intéresse à ces instantanés parce que on est tout le temps dans la langue. De même que Plossu voit tout le temps, nous, on entend tout le temps. Et on échange tout le temps sur la langue.
Elle a un grand sourire, Anne Le Draoulec. Ça veut dire que vous êtes d'accord?
Je suis d'accord.
Alors approchez-vous, Anne, du micro, s'il vous plaît. Et ben, dites-nous ce dont vous avez envie de parler.
Donc, mon conseil à moi, c'est un livre que j'ai découvert tout récemment de Chador Djavan, qui s'appelle « Et ces êtres sans pénis », que j'ai entendu à une lecture à Toulouse.
Et qu'est-ce que ça raconte, ces êtres sans pénis? Donc, c'est épouvantable.
C'est épouvantable ce qu'il y a dans le livre. C'est vrai que c'est pas un livre, je disais que je vais le recommander à tout le monde, mais c'est un livre assez terrible, en fait.
Pourquoi,
vraiment
alors?
Tragique. Donc c'est un livre, donc c'est écrit par une écrivaine qui parle de l'Iran, enfin de la situation des femmes en Iran. Mm-hmm. Bon, je sais pas si j'en profite pour dire justement qu'on avait, enfin que les droits d'autrice, il y a une partie qui sera reversée à une association toulousaine de défense, enfin des droits des femmes en Iran.
Et comment elle en parle alors?
Donc voilà, cette personne en parle à travers des destins de femmes singuliers qui commencent comme de façon familière par des vies normales. Et puis bon, là, je veux pas dire que la fin est tragique, mais pour à chaque fois la fin est tragique. Et l'autrice dans le premier chapitre dit: je veux, lecteur, que ce livre reste à jamais dans votre mémoire. Et moi, pour le coup, il est vraiment, je pense, gravé à jamais dans ma mémoire. Et il y a des, donc c'est des, voilà, les violences, les féminicides, le voile, moi quelque chose qui me plaît beaucoup, le voile, elle parle du voile que les êtres sans pénis, parce qu'elle dit qu'être sans pénis, c'est pas une provocation, elle est née sans pénis, c'est pas une provocation non plus, et les êtres sans pénis doivent porter un bout de tissu sur la tête qui fasse, enfin, quelle que soit la température, et je trouve que ça donne une autre façon de voir les choses, plutôt que de dire les femmes doivent être violées.
C'est paru en poche, là.
C'est paru en poche,
oui, c'est
il
sorti
date
en
2021
chez Grasset. et ces et... êtres sans pénis, point d'exclamation. Rappelez-nous le nom de l'auteur, j'ai peur de mal le prononcer.
Shadort Javan.
Très bien. Et
elle a aussi cette expression, il n'y a pas mort d'homme quand il y a un féminicide.
Et puis il voilà, y avait quand même un beau lapsus de Marie-Marie. Dire violer au lieu de dire voiler.
Comment ? Moi j'ai dit ça ?
De mon côté, si vous le permettez, un rappel et un conseil si vous souhaitez devenir juré du Livre Inter, c'est-à-dire recevoir 10 romans, les lire et vous retrouver ensuite dans un jury de 24 personnes pour élire le prix du Livre Inter 2025. Il vous reste quelques jours, vous avez jusqu'au lundi 10 mars inclus, pour faire acte de candidature en allant sur franceinter.fr ou par courrier, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris CEDEX 16. Dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous lisez et pourquoi aussi vous lisez. J'allais dire tout simplement, c'est jamais simple de parler de soi et de parler de son amour de la lecture, mais essayez de nous donner envie de vous connaître. Si vous êtes retenu, vous ferez la rencontre des autres jurés en juin, le jour de la délibération, mais aussi de la présidente du jury qui est l'écrivaine Marie-Hélène Lafon. Vous savez ça, Marie-Hélène ?
Mais oui, parce qu'on l'entend sur les ondes et elle parle de façon très éloquente de son amour de la lecture.
Je rappelle le titre du livre paru au Mercure de France de Marie-Hélène, Le côté obscur de la reine, collection Traits et portraits, et le livre des linguistes qui sont ici avec vous, Anne Le Draoulec et Marie-Paul Perry-Woodley, Entre elle et lui, variation au pluriel sur les asymétries de genre en français aux éditions de l'Aube. Je vous laisse quelques secondes pour nous dire si vous êtes une bonne mère, Marie Nimier.
Silence, grand silence. Il faudrait demander à mes enfants.
J'imagine que vous vous êtes beaucoup
posé cette question. J'ai beaucoup aimé être une mère et j'ai eu deux garçons, ce qui a peut-être facilité un peu la tâche.
Lucie Lemarchand réalise cette émission, préparée avec Louise Tempero et Virginie Rouzic. Valentine Chédebois programme la musique. À la technique aujourd'hui, Gaspard Guy Bourget.